Toutankhamon, pharaon d'Égypte, par Octave Béliard. Devant la tombe de Toutankhamon, ouverte par hasard en 1923, après être resté muré et oublié durant 3273 ans, un philosophe aurait bien lieu de méditer sur les caprices de la fortune et sur l'optique déformante de l'histoire. En effet, à part les égyptologues, personne ne parle plus tant de grand roi d'Égypte, magnifique et surhumain, dont les règnes jalonnèrent les milliers d'années de la plus vieille civilisation que la terre ait connue. Et parce que, parmi tant de sépulcres violés et dépouillés dans les lointains du temps, un seul est trouvé intact, contenant sa momie dans un cercueil d'or massif, au milieu de richesses qu'on n'eût pas osé rêver. Voici que le nom de Toutankhamon devient immédiatement célèbre par tout l'univers. Ce petit roi maladif, qui monta enfant sur le trône et qui mourut avant d'être un homme, prend dans l'opinion une place que ni les grands conquérants, ni les grands bâtisseurs, ni les grands législateurs de son pays n'ont obtenue, et sa falote personnalité occupe la pensée des plus indifférents. Il apparaît comme le plus important des pharaons et les étrangers qui visitent la vallée des rois, à Thèbes, montre plus de curiosité pour la cave exiguë, vidée de ses richesses, où l'on a laissé son corps par une sorte de pitié, que pour les admirables palais souterrains, aux multiples salles sculptées et peintes, de Thoutmès III, d'Aménophis II, de Séthé Ier et de Ramsès III. Toutankhamon, faible héritier d'une grande monarchie, ne fit rien de grand et personnifia le déclin fastueux de sa dynastie. On le comparerait volontiers à l'un des derniers Valois, par exemple à ce pâle François II, qui mourut comme lui, phtisique, à 18 ans. Et la comparaison est d'autant plus tentante que tous deux vécurent à des époques de luxe raffinées, profondément troublé par des querelles religieuses. L'histoire de Toutankhamon est donc moins l'histoire d'un homme que celle d'un temps fiévreux qui fut court, mais qui laissa tant de traces dans les annales et sur les monuments que peut-être aucune période de l'Égypte n'est plus exactement connue de nous. Et si l'on songe que nous en sommes séparés par un abîme de près de 33 siècles, ou bien des événements en sombre et sans retour, c'est une rare satisfaction intellectuelle que de pouvoir l'évoquer. Quand Toutankhamon naquit, en l'an 1362 avant notre ère, la civilisation égyptienne existait certainement depuis une trentaine de siècles déjà, puisque l'on fait remonter à 4141 avant Jésus-Christ l'invention que firent les Égyptiens du calendrier, ce qui suppose à cette date une évolution scientifique déjà vieille. La dynastie qui éleva le sphinx et les pyramides était morte depuis 1200 ans, en sorte qu'on se souvenait de Khéops à peu près comme nous nous souvenons de Dagobert. L'Égypte était donc déjà une très vieille nation, pleine d'œuvres et de souvenirs, à qui la Chaldée et peut-être la Chine inconnue auraient seules pu disputer le rang d'ancienneté. Le reste du monde se peuplait de familles patriarcales ou belliqueuses, dont nous connaissons à peine les noms et qui ébauchaient leur forme nationale. Je cherche ici à donner une impression de l'antiquité de Toutankhamon. Sous son règne, Israël n'était pas encore organisé en peuple, s'il est vrai que Moïse vécut sous Ramsès II et Merenphtah un siècle et demi après. La Syrie existait depuis 500 ans. Les barques phéniciennes commençaient à se faire voir partout sur les mers. La Grèce, à la période égéenne et semi-fabuleuse, ne devait faire parler d'elle dans le monde que 100 ans plus tard, par la prise de Troie, et il fallait attendre 608 ans pour que fût tracée, au bord du Tibre marécageux, la première enceinte de Rome. Et quant au territoire de notre France actuelle, on ne sait pas quelles informes peuplades y habitaient. Ce n'était à coup sûr pas encore des Gaulois, puisque les premières invasions celtiques ne remontent qu'à 500 ans avant Jésus-Christ. Que nous puissions savoir avec détail la vie de Toutankhamon et les mœurs de son époque, quelle merveille! Il convient, pour comprendre les événements de son règne, d'esquisser sa généalogie. Le fondateur de la dynastie fut le roi Thoutmès Ier, le premier pharaon qui ait fait creuser son tombeau près de Thèbes, sa capitale, dans la vallée des rois. À la mort de Thoutmès Ier, qui avait associé au pouvoir son fils Thoutmès II et marié son second fils Thoutmès III à sa fille Hatshepsut, union consanguine alors régulière dans les familles royales, ces trois héritiers se disputèrent la couronne. Thoutmès II disparut, Hatshepsut, reine magnifique et autoritaire, construisit d'immortels édifices et sut tenir son mari à l'écart des affaires. Enfin, Thoutmès III, veuf, régna seul, fut l'un des plus grands rois de l'Égypte et conquit la Syrie. Ses successeurs furent Amenhotep II, puis Thoutmès IV, puis le grand Amenhotep III, qui fit bâtir le temple de Louxor et érigea dans la plaine les deux colosses à son effigie qui sont connus, depuis les Grecs, sous le nom de colosses de Memnon. Ces pharaons, surtout le dernier, furent de glorieux conquérants. La nécessité de réprimer les fréquentes invasions asiatiques les conduisit à poursuivre leurs ennemis jusqu'aux confins du monde connu, alors que sous leurs prédécesseurs, et depuis un temps immémorial, l'Égypte était restée isolée dans ses frontières naturelles, ils fondèrent un vaste empire qui s'étendit jusqu'à l'Euphrate et durent, pour contenir les nombreuses tribus soumises, inaugurer une politique étrangère. C'est ainsi qu'ils eurent les Chaldéens, les Assyriens, les Hittites, les Égéens, tantôt pour amis, tantôt pour alliés, et qu'ils gouvernèrent les Sémites et les Mitanniens, ainsi que les Nubiens des déserts africains. Ce permanent contact avec l'étranger, qui leur procurait de grandes richesses, par commerce, butin ou tribu, dénationalisa quelque peu leurs mœurs. Aussi, par calcul politique, sans doute, prirent-ils pour grandes épouses royales, des étrangères, filles de roitelets asiatiques, et attentèrent ainsi à l'usage sacré qui voulait que le pharaon épousât une parente proche, le plus ordinairement sa propre sœur, pour sauvegarder la pureté d'une race qu'on croyait issue du soleil. Thoutmès IV épousa Noutemouya, une Mitannite, et Amenhotep III, la Syrienne Téyé. Cette reine Téyé, mal supportée par les Égyptiens nationalistes, paraît avoir eu la tête politique d'une Catherine de Médicis, mais d'une Catherine de Médicis favorable aux réformes religieuses. Du moins est-il permis de soupçonner son influence sur l'éducation de son fils Amenhotep IV, qui voulut changer la religion de l'Égypte. Amenhotep ou Amenophis IV, père de Toutankhamon, est une singulière et attachante figure. Issu du croisement de deux races, il n'a plus la mâle vigueur des pharaons, ses ancêtres. Son effigie, que le Louvre conserve, est celle d'un jeune homme souffreteux, au cou mince et long, au front fuyant, à la lèvre inférieure proéminente, au menton accusé et gracile. Il était sujet aux crises d'épilepsie, comme un certain nombre d'hommes célèbres, constructeurs ou réformateurs, dont cette maladie semble avoir déterminé le singulier génie, Louis XI, Calvin. Ce fut en effet un homme de génie. La religion des Égyptiens était une idolâtrie très confuse. Chaque province et chaque ville avaient leur dieu, groupé par famille et également soumis par le culte officiel. D'autres divinités, plus généralement honorées, avaient de l'ordre cosmique et représentaient les divers aspects du soleil Ra. Il y avait enfin Osiris, roi légendaire, devenu le dieu des morts, et sa famille. Tous ces dieux, suivant les temps, étaient plus ou moins confondus entre eux et plus ou moins distincts. Chacune de leurs images devenait aisément l'objet d'une légende et d'un culte particulier. Au temps dont nous parlons, Thèbes étant la capitale, son dieu Amon, paré des attributs solaires de Ra, avait acquis la primauté sur les autres dieux et les dominait avec Mout, sa femme et son fils Khonsu. Le clergé d'Amon était devenu si puissant et les biens de main morte accumulés par lui étaient si considérables que le grand-père mettait en péril l'autorité royale et prétendait à tenir les pharaons en tutelle. Amenophis IV réagit avec une énergie admirable en décrétant que désormais l'Égypte n'adorerait plus qu'un seul dieu, figuré par Aton, le disque solaire. En s'élevant à une conception monothéiste, il faisait assurément la preuve d'un grand esprit devançant les temps. Mais en outre, sa réforme servait merveilleusement sa politique. Au lieu d'un inextricable panthéon, il proposait un dieu universel que tous les peuples différents de ces vastes états pouvaient également admettre. Il créait l'unité religieuse, et puis c'était l'occasion de remettre la main sur tous les biens du clergé. Il changea donc son nom d'Amenhotep, Amon est satisfait, en celui d'Akhounaton, la gloire d'Aton, et abandonna Thèbes pour fonder au lieu actuel d'El Amarna une nouvelle capitale qu'il appela Ikhoutaton, l'horizon d'Aton. Les temples que ses pères avaient bâtis en l'honneur d'Amon furent détruits ou aliénés, toutes les figures de dieux brisées ou défigurées par le marteau, la vieille religion violemment persécutée, les prêtres bannis. L'Égypte fut officiellement monothéiste, au moins autant que dura la vie du réformateur pendant 14 ans. Mais quand il mourut d'une crise d'épilepsie, la question religieuse se posa de nouveau. De son épouse royale, la belle Néfertiti, fille du roi de Mitanni, il n'avait eu que des filles, Saakara, le mari de sa fille aînée, qui devait lui succéder, n'était qu'une vie éphémère. Tout l'espoir de la dynastie se concentrait sur Toutankhaton. C'était un enfant. Toutankhaton, le futur Toutankhamon, n'avait pas 11 ans. Élevé dans le palais d'Ikoutaton, il ne connaissait que le nouveau culte institué par son père. Mais le clergé de la Montébin profita de cette débile minorité pour relever la tête et peut-être avec l'aide des femmes, sans doute avec celle de puissants personnages de la cour qui regrettaient secrètement l'ancien régime, fit le siège de ce cerveau enfantin. Vraisemblablement, des pédagogues reçurent la consigne d'effacer dans l'âme du petit roi le souvenir d'un père déconsidéré, à peu près de la même manière que les précepteurs donnés à l'Aiglon par Metternich, 30 siècles plus tard, s'efforcèrent d'apprendre à leur élève une histoire amputée de l'aventure napoléonienne. La religion d'Aton fut présentée à l'enfant comme une damnable hérésie. On lui racontait les légendes des dieux dépossédés. On lui donnait en exemple ses glorieux ancêtres, tous fidèles adorateurs d'Amon, à la protection de qui leur victoire était due, dont leur reconnaissance avait doté magnifiquement les prêtres et érigé les temples majestueux. On ne dut pas craindre de lui montrer l'infidèle Amenhotep, mort prématurément, comme ayant succombé sous le courroux des dieux et en proie, dans l'autre monde même, à leur juste vengeance. Les terrifiantes figures des monstres dévorateurs des âmes injustifiées, qui couvrent les pages du livre des morts, furent certainement évoquées et emplirent de cauchemars les nuits du jeune pharaon. Enfin, on lui fit voir le peuple égyptien tout entier aspirant à la restauration de son culte traditionnel. Bref, l'enfant fut conduit à Thèbes, par le Nil, dans un éblouissant cortège de canges aux voiles de pourpre, aux rames dorées, parmi les acclamations d'une foule enthousiaste qui couvrait les deux berges du fleuve. On le fit sacrifier en pompe dans le grand temple de Karnak, qui était déjà, encore que des générations de rois l'aient bien agrandi depuis, une imposante masse d'édifices où les constructions du Moyen Empire avoisinaient les pylônes et le portique de Thoutmès Ier, les obélisques d'Hatchepsout, la salle des fêtes de Thoutmès III, la façade d'Amenhotep III, témoin de pierre de la grandeur et de la piété de sa race. Son nom de Toutankhaton, l'image divine d'Aton, fut transformé en celui de Toutankhamon, l'image divine d'Amon, Toutankhamon donc, et par un décret daté de la 4e année de son règne, il rétablit les anciennes divinités dans tous leurs privilèges. L'éphémère capitale d'Ikoutaton fut abandonnée à la ruine, à l'herbe et aux animaux sauvages. Elle ne fut jamais relevée depuis, mais respectée des hommes comme un lieu maudit. Des fouilles récentes y ont fait retrouver, dans les tombeaux, assez de documents pour établir jusqu'en ses détails l'histoire de la réforme religieuse, des vestiges d'un art opulent et sans durée. Et sous la ruine de ses palais, un amoncellement de briques couvertes d'inscriptions qui éclairent toute l'organisation, toute l'administration, toute la politique étrangère du grand empire égyptien de la 18e dynastie. Toutankhamon convertit, fit restaurer, ou l'on restaura sous son nom, les temples d'Amon. Il acheva notamment l'hypostyle de celui de Louxor et en décora les murs. Le bas-relief célèbre de la procession du Nouvel An avec les barques des dieux portées par des prêtres, que l'on admire encore, date de lui. Fut-il un néophyte convaincu ou seulement contraint? Cela reste le secret de son âme pensive, du visage mélancolique et fermé que ces statuaires nous ont légué. Les pierres de Karnak gardent la formule de son abjuration. « Je relève ce qui était ruiné parmi les monuments éternels. J'écarte le mensonge au loin des deux terres et je rétablis partout la vérité. » Mais il donna une preuve de sa piété filiale en faisant transporter dans la vallée des rois les restes honnis de l'hérétique Amenhotep et de la reine Théié, l'étrangère détestée, sa grand-mère. Le clergé qui le tenait en tutelle le lui permit, à condition que l'inhumation se ferait sans faste dans un caveau commun et nu. Et l'on ne résiste pas à la pensée que ce pauvre roi adolescent fut un héros de roman, le martyr d'un drame intérieur mettant en conflit le souvenir torturant d'un père renié et la soumission apparente à des maîtres tyranniques. Le fait est qu'il fut tenu en défiance et en quelque sorte séquestré, chargé du fardeau de la faute paternelle. Le prestige de la dignité pharaonique à quoi le peuple restait attaché, rendait sa personne sacrée et indispensable. Ceux qui exerçaient le pouvoir effectif l'annihilèrent réellement en se servant de lui pour l'apparence. Il représentait la souveraineté, était montré partout solennellement, mais ne rendait aucune ordonnance, sans avoir consulté ce dieu Amon, derrière lequel les prêtres se dissimulaient. Et déjà, le clergé méditait l'accession du trône de deux intrigants politiques, le prince Haï, sorte de maire du palais, époux d'une obscure nourrice royale, et le général victorieux Horemheb, dont la mère était fille d'Amenhotep III et qui était l'homme le plus populaire d'Égypte. À part l'exercice obligé de son métier de mannequin royal, tout en Camon, que j'ai comparé au dernier Valois, en menait l'existence luxueuse et puérile. Il paraît avoir eu un goût très vif pour la chasse. La riche collection de ses armes en est la preuve. Comme la cicatrice de l'ongle d'un lion derrière son oreille momifiée fournit celle de son intrépidité. Mais sa santé chancelante, le mal de son adolescence le laissa-t-il longtemps jouir de ses plaisirs violents? Les nombreuses images que l'on a de lui, et dont on ne peut suspecter la ressemblance, tant elles sont précises et caractérisées, le parent de la triste poésie des fins de race et donne assez d'émotion pour qu'on ait peine à en détacher le regard. Le corps est fatigué par l'anémie. Les yeux, trop grands, ont une extraordinaire lucidité. La bouche, délicate et sinueuse, a le pli de l'amertume. Il est d'une beauté inquiétante et féminine. On pense aux enfants des portraits qui, comblés de luxe et mourant d'ennui, se sont étiolés dans l'obscurité de palais trop clos et dont le sang était appauvri par des tares familiales, par un lourd héritage de génie et de folie. Peut-être la politique de ses gouverneurs exigea-t-elle qu'il s'épuisât dans d'énervantes délices. Il dut être d'une intelligence raffinée et d'une volonté faible, rêvant de grandes choses et désespéré de ne les point réaliser. Un aiglon en cage. Ses gardes et ses médecins formaient les barreaux. Un jour, il s'échappa et se donna l'enfantin plaisir de couper lui-même un roseau au bord de l'eau. On a trouvé ce roseau dans sa tombe avec une inscription qui établit l'anecdote et une brassée de fleurs fanées de nénuphars et d'iris jaunes. On comprend les superstitions qui se donnèrent cours lors de l'ouverture du cercueil de cet enfant trop riche et maléficié. Les fantômes de ceux qui ont manqué leur vie sont des fantômes irritables et mal contents. Il mourut l'an 1350 avant Jésus-Christ, d'épuisement, de langueur, de phtisie, à 18 ans et sans héritier direct. Il ne faudrait pas que le trésor découvert dans son caveau suggérât l'idée que sa mort fût pleurée et entourée de respect. Ces trois effarants cercueils, dont l'un est d'or massif et d'émail bleu, il les avait sans doute fait faire de son vivant, avec les étuis d'or de ses doigts et de ses orteils, et tous ces miraculeux joyaux qui emplissent maintenant toute une salle du musée du Caire. La vérité, c'est qu'on se hâta d'enfouir cette postérité d'hérétique et d'enfouir avec elle, dans une tombe rapidement creusée et indigne d'un pharaon, tous les objets, quelle que fût leur valeur, qui rappelaient son règne et l'odieux règne précédent. On y entassa en vrac, comme en un magasin de débarras, les coffres, les vases précieux, les lits, les sièges, les chars, toute cette magnificence qui venait d'Ikoutaton, la ville maudite, vestige d'un art hérétique que Toutankhamon avait rapporté à Thèbes. C'était le souvenir même de l'hérésie que l'on prétendait enterrer, et le souvenir d'une famille éteinte dont le sacrilège avait effacé la gloire. Littéralement, la momie de Toutankhamon reposa parmi l'encombrement d'un somptueux bric-à-brac, et c'est évidemment grâce à l'humilité de ce tombeau que les voleurs de tous les siècles, qui pillèrent toutes les syringes royales, n'en soupçonnèrent ni l'emplacement ni la splendeur de son contenu. Vainement, en Kespaton, la petite reine désolée tenta de trouver un second mari qui maintint le trône dans la famille des Toutmessides. L'activité de l'intrigant Haï devança son dessein et ce fut cet époux de la nourrice qui coiffa la double couronne. Il eut un règne court et sans gloire, et son successeur fut le général Horemheb, qui fit effacer sur les murs des temples les cartouches de Toutankhamon et les remplaça par les siens. Il ne fut plus question du petit roi oublié. L'Égypte allait connaître par une autre famille une nouvelle ère de gloire, car déjà se levait à l'horizon la radieuse étoile des Ramsès. C'était Toutankhamon, pharaon d'Égypte, par Octave Béliard.